Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonsoir à tous et nous allons ouvrir un premier passage dans notre Bible. Et je vous propose cette lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13 et au verset 47. C'est une petite parabole qui va nous servir tout simplement de base de réflexion. Et puis ensuite nous nous reporterons sur un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes. Alors commençons par l'évangile de Matthieu, chapitre 13, dans ce premier temps. Et voilà ce que nous partageons ensemble. Chapitre 13 de Matthieu, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet, jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Voilà, je m'arrête là pour tout simplement cette introduction, cette première pensée. Comparaison, comme Jésus le fait très souvent, du royaume de Dieu, comparé à des hommes qui sortent en mer, qui jettent le filet, puisque cela nous est donc précisé, et puis en le ramenant, ils ramassent des poissons, et des poissons, il nous est dit, de toute espèce. Et c'est vrai que dans les mailles d'un filet sur la mer, on ramasse de tout, hein. Il y a de tout, on ne fait pas le tri, c'est après que l'on fait le tri. Et il nous est dit que quand il est rempli, alors naturellement, eh bien, ces hommes de mer, ces pêcheurs le tirent et posément, ils s'assoient sur le rivage et ils mettent dans des vases ce qui est bon, ce qui va pouvoir servir utilement aux hommes et qui va naturellement les nourrir. Et par contre, le tri qui va s'opérer, eh bien, ils vont jeter ce qui est mauvais. Alors ce sont des contrastes, hein, vous avez remarqué avec moi. Hein, il nous est dit qu'il y a des vases où l'on met les bons poissons, et puis on va rejeter tout simplement eh bien, ce qui est mauvais à la mer. Et vous avez remarqué ce que Jésus dit ensuite, il en sera la fin du monde. Alors il ne faut pas s'attendre à ce que le tri soit fait maintenant. Et je dirais, abstenons-nous de faire le tri, parce que il n'y a pas que ce texte qui nous le dit, mais c'est une mise en garde. Et il est précisé que les anges, à la fin du monde, viendront séparer les méchants d'avec les justes. Les bons, les justes, ce qui est mauvais, avec les méchants. Alors, à partir de cette petite parabole, nous allons ouvrir un autre texte qui, me semble, met en évidence ce que Jésus nous enseigne à travers ces quelques mots. Et nous allons justement, eh bien, nous reporter, je vous l'ai dit tout à l'heure, me semble-t-il, dans le livre des psaumes. Et il y a un psaume qui nous parle de ce tri indispensable. Et quelquefois, ça peut être déroutant parce que on vit dans un monde d'injustice, un monde de complexité où tout est emmêlé. Un auteur de la Bible a écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, enfin c'est comme ça qu'on a appelé le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible, il nous a appelé « La foire aux vanités », où tout est mélangé, où il n'y a plus rien à comprendre, où toutes les choses sont inversées. Et c'est vrai qu'il y a de quoi troubler les consciences devant ce genre de mixture, d'amalgame, savoir finalement ce qui est vrai, ce qui est faux, de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, voilà. Alors le psaume 73, pardon, nous en parle savamment, et j'aimerais justement vous parler du bonheur des méchants. Alors c'est paradoxal ce que je suis en train de dire, parce que dans notre pensée arrêtée de conviction qui est la nôtre, En lisant la Bible, on sait très bien qu'il n'y a pas de bonheur pour les méchants, pour ceux qui font le mal. Ce n'est qu'une illusion, peut-être pour eux, mais on va essayer de décoder un peu ce que ça veut dire. Le bonheur des méchants. Et il est parlé aussi dans ce texte du malheur des justes. Alors je ne sais pas si ça vous convient comme programme, mais on va essayer de comprendre tout ça, parce que c'est vrai, je vous l'ai dit, c'est embrouillé. Alors dans le psaume 73, je vais lire la première partie. C'est un psaume qui émane d'un écrivain, d'un homme de foi qui s'appelle Asaph. Et il dit ceci: oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message le bonheur des méchants. Alors, cet homme de Dieu est aux prises avec une grande perplexité. Il ne comprend plus rien à rien. C'est pourquoi il écrit ce psaume, parce qu'il va y avoir le dévoilement, non pas de ce que les hommes comprennent, mais de ce que Dieu voit, et de ce que Dieu sait, de ce que Dieu connaît. Et finalement, eh bien, nous allons nous mettre à l'école, et ça peut être rassurant pour nous, parce qu'il y a de quoi se désespérer dans un monde tel que celui d'Asaph, tel que le nôtre, en disant, mais on entend partout des choses terribles, abominables, du sang, du feu, de la guerre, toutes sortes de choses qui sont particulièrement inquiétantes, voire même en créant l'angoisse et l'anxiété, eh bien, dans l'âme des hommes. Et pourtant, vous avez remarqué avec moi, il y a une affirmation où le psalmiste, ou Asaph, dit « Oui, Dieu est bon ». Alors, ça c'est un premier regard. Et on pourrait dire qu'au premier regard, ça semble tellement le contraire de ce qui se passe sur cette terre, sur notre planète. Et pourtant il dit « Mais oui, Dieu est bon ». Et il va raconter son histoire. Pourquoi ? Il dit que Dieu est bon, c'est qu'il s'est forgé une conviction avec ce que Dieu lui a montré, avec ce que Dieu lui a dit. Et il va croire davantage ce que Dieu dit que ce que ses yeux voient dans le monde. Ça, c'est un effort, hein, parce qu'il ne faut pas plus et pas moins, ni moins que la foi, mais pas une foi religieuse, une foi spirituelle. Alors il affirme, oui, Dieu est bon. Et il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Vous avez remarqué que Paul dira aussi « Tout est pur pour celui qui a le cœur pur ». Et je crois que s'il y en a un qui peut purifier notre cœur, c'est Dieu. Et de nous donner de voir la réalité des choses avec tout le discernement nécessaire. Et il explique pourquoi il affirme ces choses, parce qu'il est arrivé dans sa vie, dans la vie d'Asaph, qu'à un moment donné, son pied allait fléchir. Il était convaincu que Dieu est Dieu, mais il était moins convaincu de ce que les hommes étaient capables de faire le bien. Et en voyant le mal que l'humanité, que les hommes de son temps étaient capables, eh bien là, de faire, eh bien, il s'est pris à dire, mais c'est terrible une chose pareille. Et il a eu, en quelque sorte, une hésitation, un grand doute, et il le dit lui-même, eh bien, j'allais chanceler moi aussi. J'allais être emporté par, finalement, le courant, j'allais être emporté par le conformisme ambiant, la mentalité de mon temps, comme celle d'aujourd'hui, eh bien, mes pas étaient sur le point de glisser. À tel point qu'il allait porter envie à ceux qui font le mal, en considérant leurs actes, leurs œuvres, et en se disant, mais finalement, c'est peut-être eux qui ont raison. Ils font toutes sortes de choses malhonnêtes. Ils parlent un langage de mensonge. Ils sont en train d'écraser le petit et l'innocent. Et puis, quand on constate, mais ils réussissent quand même. Alors, c'est ce dont il est en train de nous dire, je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. On n'est pas dans un monde où l'homme qui pêche serait jugé immédiatement, parce qu'il resterait pas grand monde, hein. Et peut-être même parmi les enfants de Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il semblerait que quand on considère l'histoire de l'humanité, le mouvement de notre monde, de nos sociétés, que on peut y aller. Il y a des grands criminels qui ont traversé l'histoire, et puis, quelquefois on se dit, mais ils sont morts, paisiblement dans leur lit, en ayant répandu du sang abondamment derrière eux. Il y a des hommes qui ont fait des choses abominables, qui ont trompé, qui ont ruiné tant de vies, et tranquille, hein, ils se sont enrichis, on leur a ouvert les portes, les honneurs, et on a même peut-être à leur disparition mis une plaque ou une statue à leur effigie. On se dit, mais c'est fou ça, parce qu'on pourrait s'attendre que devant de telles horreurs, devant de telles atrocités, de telles abominations, eh bien, on en appelle au jugement en disant, mais Seigneur, si tu es Dieu, si tu existes, eh bien, tu dois pouvoir arrêter ça. Et pourtant, c'est pas ce que Dieu fait. Et ça, c'est particulièrement troublant, déroutant. C'est l'histoire d'Asaph. Et puis voilà que nous en arrivons véritablement maintenant à l'explication. C'est qu'il y a les deux versets qui suivent nous disent ceci. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Seigneur, je comprends plus. Comment se fait-il que ces gens qui ont des mains criminelles, qui ont des pensées perverses, qui font tout ce qui est contraire à ta volonté, ou même, si on ne connaît pas ta volonté, il y a quand même des principes et une moralité dans ce monde, parmi les hommes, mais eux, ils font tout le contraire, et ils y vont allègrement, hein. Vous savez ce que nous montrent ces deux versets? C'est qu'il y a les apparences et la réalité. Et je pense qu'un chrétien ou un homme de foi n'est pas un homme d'apparence, mais c'est un homme qui cherche, qui recherche la réalité et le fond des choses. Et ça, c'est important. Nous ne sommes pas des personnes éthérées qui nous réfugions dans je ne sais quelle tour d'ivoire en refusant de voir ce qu'il y a autour de nous. Nous sommes réalistes et nous devons avoir les pieds sur terre. Et pourtant, le psalmiste nous dit, mais si je considère finalement la vie de ces gens terribles, eh bien, apparemment, je le disais il y a un instant, ils vont mourir dans leur lit, à un âge avancé, et en plus on leur fera un enterrement de première classe, avec une oraison funèbre, je vous dis pas, hein. On va vanter finalement eh bien, le bien qu'il a fait, on ne parlera pas du mal qu'il a fait. Alors, il s'endort dans son lit, et rien ne les tourmente. Alors qu'il y a des gens qu'ils ont dépouillés et qui meurent de faim, eh bien, eux, ils sont bien beaux, bien gras, bien dodus. C'est ce que la traduction un petit peu particulière que je suis en train de donner, chargée d'embonpoint, et ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ça, ce sont les apparences. Finalement, tout va bien pour eux. Ils ont tout le confort, tout le bien-être, l'argent, les maisons, le succès, la réputation. À la limite, ce sont presque des idoles. Ils sont enviés par ceux qui n'ont pas ce qu'ils sont, ou qui ne sont pas ce qu'ils sont. Alors, les apparences et la réalité. On va aller un peu plus loin, et puis la suite nous dit ceci. À partir du verset 6, naturellement, « Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. » Voilà le résultat. Et ça, il y a de quoi décourager les plus téméraires et les plus courageux, hein, parce que finalement, dans les conditions qui sont les leurs, ils font la démonstration d'hardiesse de faire le mal impunément. Écoutez, le texte nous le dit. D'abord, ce sont des orgueilleux, et ils ne se cachent pas, ou ils ne s'en cachent pas, puisqu'ils se montrent devant tous, ça leur sert de collier. Et puis, finalement, il y a quelque chose qui les caractérise, c'est qu'ils sont violents, ce ne sont pas des doux. Ce sont des gens, dès qu'on touche à leurs intérêts, ou l'on empiète sur leurs intérêts, parce qu'il n'y a que ça qui compte, leurs intérêts, ou l'argent, ou leur richesse, ou leur bien-être, ou leur confort, c'est leur dieu. En quelque sorte, ils n'ont pas d'autre dieu. C'est la terre, hein. Leur horizon, c'est la terre. Ce n'est pas le ciel. Alors, à chaque fois que l'on touche à quelque chose, à ce moment-là, ils se manifestent dans la violence. Et en plus, ils vont se justifier en disant, mais je ne fais que me défendre. Je ne fais que préserver mes droits. alors que peut-être ce qu'il possède, ça a été extorqué à d'autres. C'est terrible. C'est presque un scénario de film de cow-boy, hein. Vous comprenez? De Far West, hein. Et c'est assez choquant. Il nous est dit que l'iniquité sort de leurs entrailles. C'est-à-dire que leur pensée est constamment orientée à ce que je pourrais faire pour faire du mal, pour intriguer, pour essayer de m'approprier en plus de ce que j'ai, eh bien, ce que les autres possèdent. Et les pensées de leur cœur se font jour. Mais ils le font avec tellement de diplomatie, c'est qu'on s'aperçoit pas que c'est mal. Parce que c'est bien fait, c'est bien enveloppé, c'est, pour eux, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen. Ils raillent. Vous savez, la raillerie, c'est la moquerie. Et puis, ils parlent méchamment d'opprimés. C'est-à-dire que c'est la moquerie, et puis également, c'est la menace. Méchamment d'opprimer en disant si tu n'obéis pas, si tu ne fais pas ce que je veux, si tu ne te plies pas à mon autorité ou à ce que je suis, alors moi je t'écrase. C'est ce que ça veut dire le texte, hein. Ils profèrent des discours hautains, on les écoute. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se déplacent de très loin pour écouter, pour entendre, et tout le monde applaudit. Oh, il y en a eu des dictateurs dans le monde, hein, qui ont fait cela, et mettre même quelquefois un pays à genoux et en admiration devant les beaux discours. Mais on n'a pas besoin d'un dictateur, même la qualité ou la condition inférieure, ça existe à tous les domaines, c'est pas seulement au niveau politique, ça peut être simplement au niveau d'une entreprise et puis de toutes sortes de choses, hein, de tout là où la société humaine peut se rassembler. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, c'est-à-dire qu'ils maudissent Dieu. Un Dieu auquel ils ne croient pas, ils s'en servent pour faire des imprécations. Et leur langue se promène sur la terre. Et cette langue, on va la porter, tantôt pour amadouer, tantôt pour menacer, et elle fera le tour du monde. Alors, il ne reste plus que à se soumettre à ce régime d'oppression, de persécution, de méchanceté et de domination. C'est horrible. Le monde n'a jamais connu autre chose depuis toujours. C'est ainsi que les choses. La hardiesse de faire le mal impunément. C'est ce que nous avons dit il y a un instant. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit « Mais comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent, eh bien, leur richesse. » Après cette hardiesse à faire le mal sans vergogne, nous voyons que là est dévoilée, en quelque sorte, une forme de prospérité trompeuse qui rallie le plus grand nombre. Vous savez, si vous n'avez rien, si vous n'êtes rien, si vous ne possédez rien, on va pas se faire de cas de vous. Mais si vous faites l'étalage de votre réussite, de votre prospérité, qui n'est qu'une prospérité trompeuse, ce ne sont que les apparences, parce que c'est pas l'argent qui sauve la vie d'un homme. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, on ira vers celui qui a. Et puis on délaissera celui qui n'a pas, parce qu'il n'y a rien d'intéressant, naturellement. Et on l'a vu ensemble. Et ça faisait le désespoir du psalmiste, en disant, mais y aurait-il encore quelqu'un pour Dieu? Y aurait-il encore quelqu'un qui aimerait les principes de Dieu, le bien, la vérité, la justice? Ça, c'était au niveau du peuple d'Israël. Et la désolation d'Asaph, c'était de voir que tout le monde s'éloignait de Dieu, ou des hommes de Dieu, des hommes de bien, des hommes de foi, et puis que ceux qui avaient une bouche grande ouverte pour proclamer des inepties, alors tout le monde allait vers eux. Ça, c'est renversant. C'est une injustice, et ça fait mal. De dire, mais comment se fait-il qu'ils ne voient pas tous ces gens? Ils sont en train de se faire leurrer, ils sont en train de se faire berner, et tout le monde va verser. Parce que c'est un mouvement, vous comprenez? C'est une façon de penser, c'est une mentalité qui entraîne dans le mauvais sens. Et on le retrouve encore. Finalement, dans notre monde, il suffit qu'il y en ait quelqu'un qui sorte un scoop, et puis qui ait un petit peu de charisme d'une manière ou d'une autre, quelques talents, quelques dons, même si la vie est une vie particulièrement douteuse, pour ne pas dire autre chose, alors on va se mettre de ce côté-là, parce que faut aller du côté du grand nombre. Et puis c'est certainement le grand nombre qui a la vérité et qui a raison. Plus personne pour le bien. Pour personne, pour ce qui est juste. Alors, voilà, mon peuple se tourne de leur côté. Et comment, avec cette parole agressive et prétentieuse. Mais comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Mais moi, je voudrais quand même répondre, c'est que Dieu connaît tout et il sait tout. Même si, quelquefois, nous n'avons pas le sentiment que, eh bien, Dieu parle, que Dieu est présent, parce que c'est troublant, les silences de Dieu. Mais vous savez, les silences de Dieu augurent toujours, à un moment ou à un autre, où Dieu va parler fort. Il y a toujours un temps d'attente. Et vous savez, c'est l'apôtre Pierre, me semble-t-il, qui nous dit que Dieu use de patience envers les pécheurs, envers les hommes, dans l'espérance qu'ils se repentiront de leurs péchés. Et alors, les silences de Dieu ne sont pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose de positif, qui nous parle de son amour et de sa compassion pour vouloir sauver encore, eh bien, ceux qui veulent être sauvés. C'est pour ça que le temps, quelquefois, eh bien, ça nous ronge, nous, parce qu'on se dit, Seigneur, mais si j'étais à ta place, mais on n'est pas la sienne, eh bien, moi, ça irait plus vite avec moi. Ça irait peut-être trop vite, mais on serait peut-être un petit peu comme dans la parabole, où là, on jette le bon et le mauvais, finalement, tous les poissons du filet, C'est ce que Dieu veut éviter, naturellement. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Eh oui. Le psalmiste, Asaph, va, comme il le disait tout à l'heure, mon pied allait fléchir quand il a constaté tout ça, quand il a vu tout ça. Et il poursuit et il dit, mais à un moment donné où il est en train de prendre en considération sa propre vie, ses efforts, sa sincérité, son amour de ce qui est bien, il dira, mais c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque fois, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Voilà un homme de Dieu, un homme de foi, qui va douter à un moment ou à un autre dans sa vie, en constatant son environnement, il va douter de son bon choix. Ça peut nous arriver, nous aussi, Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Pas par rapport à nous-mêmes, pas par rapport à moi, mais par rapport à tout ce qui se passe. En disant, mais quel monde dans lequel nous sommes? Parce qu'il semblerait que le mal, eh bien, s'accroît et que le bien soit condamné. Ça, c'est, on marche sur la tête à ce moment-là, c'est le monde à l'envers, Et nous nous apercevons que il y a quelque chose qui est très troublant. Parce que nous avons parlé de la prospérité trompeuse de ces hommes précédemment. Et vous savez, il y a quand même quelque chose à dire, que je voudrais que vous vous en souveniez. C'est que le pire des échecs, c'est la réussite sans Dieu. Je le répète, le pire des échecs dans la vie, c'est de réussir sans Dieu. Eh bien, c'est ce que fait le monde autour de nous. Il réussit sans Dieu. Bien que Jésus ait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ça nous amène tout doucement au résultat que nous allons avoir d'ici quelques instants. Parce que c'est terrible quand on voit la prospérité. Et comparativement à l'aisance ou au bien-être de tous ces gens et à leur prospérité, l'homme de Dieu s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait depuis tant d'années? Vous vous rendez compte? Moi, je me suis abstenu de ceci et cela pour des raisons de pure morale, parce que moi j'aime le bien, j'aime la vérité, je me suis abstreint à toujours dire la vérité, quoi qu'il m'en coûte. Et il dit, mais j'ai purifié mon cœur et j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et là, il commence à chanceler, il sait plus du tout où il en est. Et il dit, mais parce que je fais le bien, je suis frappé, j'ai des problèmes, j'ai toutes sortes de conflits à l'intérieur et toutes sortes de persécutions à l'extérieur, parce que tous les matins, mon châtiment est là. Alors, est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce qu'il vaut la peine d'être encore un croyant? Est-ce qu'il vaut la peine encore d'être chrétien? Est-ce qu'il vaut la peine de servir Dieu, de louer Dieu, de prier Dieu, puisque finalement, c'est le contraire qui se produit? C'est un cas quand même difficile, C'est un cas d'hier, mais c'est un cas d'aujourd'hui, Alors, on va avoir la réponse d'ici quelques instants. On va avoir la réponse, parce que ce qui va faire la différence, c'est que Dieu va nous dire et va nous répondre que nous n'avons pas à douter de lui. Même quand tout est contraire, même quand tout serait là pour nous dire, eh bien, tu te trompes, quelle voix allons-nous entendre? Est-ce que c'est la voix de Dieu qui nous dit, fais-moi confiance? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Et cet homme est ébranlé, il ne sait plus du tout où il en est rendu. Et il réfléchit encore sur sa vie, sur sa foi, sur sa fidélité à Dieu. Et il dit, j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. Mais c'est bien de réfléchir avant de s'engager dans n'importe quoi. La difficulté fut grande à mes yeux, parce que quand on compare, quand on met en confrontation les apparences et la réalité, on pense que l'apparence sera plus forte, et la réalité, on ne sait plus tellement où elle en est. Et il ajoute, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Retenez ça, hein, parce que c'est déjà la clé qui nous donne la réponse. Écoutez, je le relis. Asaph réfléchit, et il dit, mais j'y arriverai jamais moi-même. Donc, si je n'y arrive pas par mon intelligence, eh bien, je vais pénétrer dans les sanctuaires de Dieu, je vais me tenir devant Dieu, et je verrai ce que Dieu va me répondre. Quelle sera la réponse de celui qui est dans le ciel, que j'aime, que j'adore et que je sers? Et Dieu lui a parlé, dans ce moment de prière, ce moment de silence devant Dieu, et Dieu lui dit, eh bien, regarde maintenant. Tu vois ces hommes qui prospèrent sur la terre, ces hommes méchants qui courent de droite et de gauche, qui servent la cause de l'injustice et du mal. Eh bien, moi, je vais te montrer, non pas leur vie maintenant, mais je vais te montrer le sort final de ces gens. Et tu vas comprendre que Dieu est Dieu. Et tu vas comprendre que le bien, c'est le bien, que le mal, c'est le mal. Et qu'il n'y a pas de confusion, c'est bien clair. Ne t'attache pas aux apparences, regarde la réalité qui va venir. Et elle nous est donnée, parce qu'il est impossible pour Asaph, finalement, de raisonner, comme s'il voulait, finalement, eh bien, se donner raison de suivre les autres. Il ne peut pas, ça, c'est pas possible, c'est ce que nous avons dit. Et c'est pas possible pour un homme, une femme, quel qu'il soit, de raisonner le contraire des principes de Dieu, parce que c'est immuable. Les hommes passeront, les modes passeront, les monstruosités, les abominations passeront. Mais il y a une chose qui ne passera pas, c'est que ce n'est pas pour rien que Dieu est appelé l'Éternel Tout-Puissant. L'Éternel à jamais, celui qui est l'incréé, celui qui demeure le premier et le dernier. Mais il n'y aura pas de fin, c'est l'éternité. Et nous allons voir le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voies détruits, ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Là, nous avons, dans ces quelques versets, la réponse. La réponse, parce que c'est la face cachée des choses qui ne se voient pas encore. Et qu'est-ce que Dieu fait? Vous remarquerez que Asaph dit, tu les places. C'est Dieu qui fait les choses, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme qui pourrait être tenté de se venger de la méchanceté qu'on lui a fait. C'est pas l'homme avec ses principes, avec tout ce qu'on pourrait peut-être. Mais il est dit, mais tu les places sur des voies glissantes. Ils ne savent pas que c'est glissant, mais ils s'y engagent quand même. Parce qu'ils sont aveuglés par leur passion, par leur égoïsme, par leur avidité ou par leur haine. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Ce n'est pas que Dieu se plaît à faire tomber ou à détruire les méchants. Mais il y a un temps où Dieu, très longtemps, les sollicite à se repentir. Mais il arrive un moment où ils ne veulent pas se repentir. Parce qu'ils préfèrent encore l'injustice à toute autre chose. Tu les fais tomber. Et quoi, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, exterminés. Et à ton réveil, tu les repousses. Il peut y avoir un maintien de la méchanceté sur la terre pendant un temps. Mais permettez-moi de vous dire que ça ne durera pas tout le temps. Il arrive un moment où Dieu laisse faire. Mystère. Mais il y a un retournement de situation et on a souvent vu dans les histoires bibliques et même dans notre vie personnelle qu'il y a quelque chose d'assez étrange et mystérieux, c'est que ceux qui ont été méchants avec les autres, c'est qu'ils creusent eux-mêmes leur propre piège et leur propre fosse. Ils l'ont creusé pour vous, et Dieu va permettre que ce soit eux qui tombent dedans. Comme ça, ils pourront pas s'en prendre à personne. Et on l'a vu, c'est terrible, hein. Moi, j'ai vu déjà des choses comme ça, et je peux vous dire que c'est dramatique. Parce que ce n'est pas à nous de faire justice. Mais dans la pensée perverse des méchants, ils combinent des choses. Et ils se disent, là, on le tient, ou là, on les tient. Là, on va détruire les croyants, on va détruire les chrétiens, les hommes de foi, pour élargir le sujet. Et on s'aperçoit que ce qu'ils ont préparé pour les autres, c'est eux-mêmes. Sans s'en apercevoir, ils vont tomber dedans. Et quand ils vont s'apercevoir qu'ils sont tombés dedans, ils ne pourront plus accuser ni Dieu, ni les uns, ni les autres. Ce sera eux. Ils seront livrés aux fruits amers de leurs propres œuvres. C'est ce que le passage nous montre à l'évidence. Parce qu'il y a un proverbe ou il y a une maxime dans la Bible, elle est biblique, qui nous dit que ce que l'on sème, on le récolte. Vous connaissez, hein ? Ah oui, si vous faites quelques petites semences dans votre jardin, vous allez voir que à un moment ou à un autre, eh ben ça va pousser, parce que c'est un principe de vie. Un principe de vie. Et voilà que ce que l'on sème, on le récolte, ça nous est dit d'une manière très, très particulière à travers le verset 18. Il est dit ceci, donc tu les places sur les routes glissantes, tu les fais tomber, et voilà, en un instant, ils sont exterminés, ceci et cela. Voilà, ça, c'est vraiment le fruit. Si l'arbre est bon, il va y avoir de bons fruits, si l'arbre est mauvais, il va y avoir de mauvais fruits. Mais il y a une tentation pour ceux qui sont justes et ceux qui veulent vivre dans les principes de Dieu. Que le mal ne l'emporte jamais sur le bien. Et à travers le verset 21, lorsque mon cœur s'est grissé, que j'étais plongé dans l'amertume, ne comprenant pas ce qui se passait, et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Seigneur, pour percevoir ou pour percer le mystère de l'iniquité, comme la Bible nous le dit, en d'autres termes, la grande perplexité face au mal qui existe, eh bien, notre intelligence ne suffira pas. Notre expérience ne suffira pas. Notre connaissance et notre savoir ne suffiront pas. C'est pour ça qu'il dit, mais je me suis tourné vers les sanctuaires de Dieu parce que je n'aurais jamais pu comprendre et voir. Et il s'auto-accuse en quelque sorte, il dit, ah, mais j'étais stupide et sans intelligence. Comment je n'ai pas pensé que ce que l'on sème, on le récolte, en bien comme en mal. Alors j'étais comme les bêtes. Puisque finalement, le comportement des autres, des adversaires et des ennemis se sont comportés comme des animaux, comme des bêtes en faisant le mal. Parce que le mal n'élève pas l'homme. Il le met à une condition qui le rabaisse. La méchanceté, c'est quelque chose qui rabaisse les hommes, pas quelque chose qui les élève. Alors, c'est une chose dont il faut faire attention. Et voilà que le texte se termine de cette manière, et il dira, comme au début, oui, Dieu est bon. Et là, il termine le chapitre, il dit, mais cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Et là, nous avons quelque chose de formidable. C'est que nous touchons du doigt cette incomparable consolation de l'homme qui s'inquiète. De l'homme qui a souci de la vérité, du bien et de la justice. Et il y a des paroles de consolation et une sécurité éternelle que l'on peut trouver qu'en Dieu et qui nous montre que, quoi qu'il en soit, c'est encore Dieu, toujours et à jamais, qui aura le dernier mot. Je ne sais pas si vous le croyez, mais c'est pourtant la réalité. Dieu aura le dernier mot, ce qui fait dire au psalmiste, oui, je sais que Dieu est bon. Malgré toutes les apparences, je sais que Dieu est bon dans les temps que nous vivons. Pourtant, nous parlons de difficultés, nous parlons de crise économique, nous parlons de sang et de guerre et de piétinement de peuples. Nous sommes peut-être à la veille d'un conflit qui ne sera peut-être certainement pas localisé, qu'il se manifeste d'une manière ou d'une autre avec un danger colossal. Mais je veux pas vous faire peur. Mais est-ce que vous croyez que ce qu'on a semé, on va le réclamer, ce qu'on a semé en mal, vous croyez qu'on va le récolter en bien? Bah dites donc, ça serait un miracle, hein. Là, ça serait un coup de force, hein. Ça serait un coup de force. Mais il y aura certainement des coups de force qui vont peut-être pas aller forcément dans le sens des hommes. Et le psalmiste dit ceci. Ce mot cependant, c'est le mot clé. J'ai vu tout ça, je connais tout ça, je sais tout ça, mais cependant, je suis toujours avec toi, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Moi, je veux pas me mettre du côté des méchants. Je veux pas me mettre du côté de l'injustice et du mensonge. Alors, Seigneur, je préfère souffrir, mais je resterai de ton côté. Parce que tu m'as saisi par la droite. Vous savez, quand on est chrétien, on l'est pour le reste de notre vie, hein, moi, je crois. Quand on est bien converti, qu'est-ce que sera notre vie? On ne sait pas. Mais en tous les cas, peut-être que on peut lâcher la main de Dieu, mais lui lâchera pas la nôtre. Il ne se reniera pas de nous avoir appelés. Alors on peut le lâcher, on peut être infidèle, mais lui demeurera toujours fidèle. Alors tu m'as saisi. Autant pour chacun d'entre nous, c'est un réconfort. On peut avoir des moments de faiblesse, toutes sortes de choses. Mais Dieu restera toujours notre sauveur, le Seigneur de notre vie, si nous voulons qu'il soit notre sauveur et notre Seigneur jusqu'au bout. Tu m'as saisi, tu m'as pris, et tu ne me lâcheras pas. Puis tu me recevras dans la gloire, ça c'est notre destination, et tu me conduiras par ton conseil, parce que je ne cherche que ton conseil, Seigneur. C'est bien pour ça que nous avons ouvert la parole de Dieu pour la commenter ce soir, c'est le conseil. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Mais quel autre ai-je au ciel que toi? Il n'y a que toi. Sur la terre et dans le ciel, il n'y a que toi, Seigneur. Et je ne prends plaisir qu'en toi, parce que finalement, tu fais mon bonheur. Tu fais mes délices, Seigneur. Même si je reste un homme fragile, même si je reste un homme sensible, même si quelquefois, eh bien, je suis vacillant et toutes sortes de choses, mais néanmoins, c'est quand même, je reviens vers toi, parce que c'est en toi que j'ai vraiment les sources de ma vie, mon plaisir et mon bonheur. Ma paix et ma joie. Parce que Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Tu es mon souverain bien, dit David. Si j'ai quelque chose dans cette vie, bien c'est toi, Seigneur. Et je l'aurai pour l'éternité. C'est le trésor des trésors. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est formidable, hein? Ce soir, vous avez fait le déplacement pour vous rendre dans cette réunion après une semaine de travail et puis avec tout ce qu'il peut y avoir de difficile, c'est vrai. Et moi, je voudrais vous dire que vous n'avez pas perdu votre temps. C'est parce que c'est pas pour la réunion en elle-même. C'est bien de se retrouver dans la communion fraternelle. Et c'est de pouvoir vous approcher de Dieu et d'écouter sa parole. Ça, c'est important. Parce que vous savez, ça change notre vie, hein. Ça nous réconforte, ça nous donne des forces. Et ça nous remet quelquefois un petit peu dans la ligne où nous devons marcher, naturellement. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Oui, Seigneur, parce qu'après avoir fait cette expérience, je pourrais dire à d'autres que tu es merveilleux, Seigneur. Tu fais des merveilles pour moi. Tu me délivres. Tu me guéris. Tu me pardonnes. Tu me sauves. Alors je le raconterai aux autres. Parce que les défis, nous allons les relever ensemble. Parce que le Seigneur est fidèle. Parce qu'il est tout puissant. Tout à l'heure, nous avons chanté que, eh bien, nous sommes guéris par ses blessures. Eh oui. Eh bien, c'est ça, justement, la réalité des choses. Et dans les blessures de Christ, nous avons tout, physique, moral et spirituel. Alors, que le Seigneur nous aide, quand il nous est dit, « Quand le filet est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils le mettent dans des vases, ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Ne nous méprenons pas, hein. Le bon va vers le bon, et le mal va vers le mal. Le bon va vers Dieu, vers la vie, et le mal, le mauvais, va vers la mort. » Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Eh bien, écoutez, je crois que c'est bien de pouvoir nous en souvenir. Comme même lorsque les gens nous présentent de la prospérité, je le rappelle, le pire des échecs, c'est de réussir sans Dieu. Alors que nous pouvons réussir bien infiniment plus d'une manière admirable et formidable avec Dieu. Alors je pense que c'est aussi le choix que nous voulons faire ou que nous voulons renouveler, Seigneur. C'est encore toi qui es finalement le rocher de mon cœur. Que Dieu nous bénisse, le rocher de mon salut pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que c'est vrai qu'il y a des choses étranges dans ta parole que nous ne comprenons pas du premier abord. Mais Seigneur, tu nous montres le début des choses et tu nous montres la fin des choses. Toi qui connais l'envers et l'endroit, toi qui connais les tenants et les aboutissants, donne-nous d'être raisonnables, donne-nous d'être sages, donne-nous d'être plus prudents, Seigneur, parfois dans certaines choses, et de comprendre et de réaliser que ce que nous semons, nous le récoltons. Eh bien, nous voulons te dire que nous voulons semer pour le bien, parce que nous allons récolter du bien, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour inonder la terre de ce bien qui en a tant besoin. Cette terre qui a faim, cette terre qui a soif, cette terre qui gémit, qui pleure, qui souffre. Eh bien, Seigneur, nous croyons que la parole de Dieu est la réponse, que Jésus-Christ est la réponse en sauvant l'humanité. Seigneur, je te demande de répandre un esprit de foi dans chacun et chacune, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions nous courber devant toi, et même si nous ne comprenons pas tout, eh bien, ce que nous ne comprenons pas maintenant, nous allons le comprendre bientôt, mais nous voulons vraiment te faire confiance. Merci, Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.